J'aimerais parler sur la réconciliation de Jacob et Ésaü dans Genèse 33, verset 1. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit auprès de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa et se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, « À quoi destines-tu tous ces camps que j'ai rencontrés ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. » Et Jacob répondit, « Non, je t'en prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été fait, qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. » Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Ésaü dit, « Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. » Jacob lui répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur et moi, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. » Ésaü dit, « Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. » Et Jacob répondit, « Pourquoi cela ? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. » Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séir. Amen. Nous avons ici une rencontre entre Ésaü et Jacob, qui s'étaient violemment disputés. Ils avaient eu une altercation, et si bien que Ésaü voulait même tuer son frère Jacob, et que Jacob avait donc dû fuir, et maintenant ce sont les retrouvailles. Et quand on est en conflit, on n'est pas bien, donc Jacob y pensait, il ruminait, il n'avait pas envie de rencontrer son frère, en même temps il voulait une réconciliation, mais il y pensait jour et nuit. Et c'est un peu notre attitude quand on est en conflit, on n'est pas bien de rencontrer la personne avec qui on est en conflit. Et par orgueil, souvent, nous avons du mal à demander pardon. Ça, c'est la démarche que Dieu nous demande. On a des préjugés, on se dit, oui, mais c'est à l'autre de demander pardon. Est-ce qu'elle va accueillir mon pardon ? Est-ce que le pardon va être sincère ? Est-ce que c'est du bout des lèvres qu'elle demande pardon ou est-ce que c'est sincère ? On est dans la suspicion. Alors, Jacob revient vers son frère, lui, dans une attitude de pardon, parce qu'il avait fait du mal, et il veut s'excuser auprès de son frère. Mais les dernières paroles d'Ésaü, quand Jacob est parti, c'était « Je me vengerai, je tuerai mon frère, si je le vois, je le tuerai, quand mon père sera mort, je le tuerai. » Donc, c'est les dernières paroles qu'il a entendues, il a fui, il s'est caché pendant plus de 20 années à Charan, et puis il revient. Et au verset 3, il a d'abord la peur d'être rejeté par son frère Ésaü. Lui-même passa devant eux, donc il avait mis ses femmes et ses enfants à la rencontre d'Ésaü, puis il passe devant eux. Lui-même passa devant eux et il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. C'est une démarche difficile parce que se prosterner, ça veut dire s'humilier, ça veut dire demander pardon. C'était dans cette attitude qu'il venait, mais il faut se rappeler qu'Ésaü, lui, il venait avec une armée. Il y avait 400 hommes, il craignait ses intentions, donc il lui fallait du courage pour confronter Ésaü. Et il nous faut du courage pour confronter une personne avec qui on est en conflit et pour chercher une solution et trouver le moyen d'en sortir. Le problème ne se réglera pas comme ça, par SMS ou par email. Il faut prendre le temps de se rencontrer, de s'expliquer et de se demander pardon. Et ça coûte quelque chose. Ce n'est pas juste un petit message, c'est une véritable réconciliation. Alors, l'indice que Jacob est bien disposé, c'est qu'il va s'incliner 7 fois contre terre. Il s'humilie devant Ésaü. Et il y a un verset dans Philippiens, chapitre 2, verset 3, qui nous demande de nous humilier aussi devant nos frères et nos sœurs. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Voilà la position du chrétien. Le chrétien n'est pas orgueilleux. Donc toute cette pensée d'orgueil, nous devons la déraciner de notre esprit et au contraire, mettre le Seigneur à la première place. Alors, c'est l'attitude de Jacob, il s'humilie, 7 fois il se prosterne, il cherche les moyens d'apaiser la colère de son frère, il va envoyer donc des troupeaux devant lui, il va y avoir plusieurs camps qui vont passer, en tout 580 bêtes par groupe de 3 troupeaux pour apaiser son frère. Mais les cadeaux ne suffiront pas, il faut la grâce de Dieu et l'intervention du Seigneur dans le cœur d'Ésaü, parce que qu'est-ce qui peut changer un cœur si ce n'est Dieu ? Et c'est ce qui va se passer. Dieu a agi dans le cœur d'Ésaü. Alors Jacob met sa famille en avant. Son idée, c'est, si Ésaü voit les femmes, les enfants, les troupeaux, il va être adouci. Il avait cet espoir qu'il serait adouci ainsi. Donc il va mettre ses 2 femmes, ses servantes, ses 12 enfants... Ainsi, il répartit sa famille par groupe et il espère attirer la faveur de son frère. Et Jacob sait qu'il ne mérite pas le pardon parce que ce qu'il a fait était mal. Il avait usurpé la bénédiction de son frère, il avait trahi son frère, donc il savait qu'au fond de lui-même, ce qu'il avait fait était mauvais. Et on sait très bien que le pardon ne s'achète pas. Ce n'est pas avec des cadeaux qu'il va obtenir son pardon, mais c'est une grâce de Dieu. Romains chapitre 5, verset 8 dit ceci, ça nous parle du pardon de Dieu, c'est la même chose, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et là, ça nous parle de la grâce de Dieu, de ce pardon qui est accordé alors que nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire nous ne méritions pas le pardon, mais Dieu nous l'a donné. Deuxième point, c'est au verset 4. C'est maintenant le pardon d'Ésaü, donc il ne s'y attendait pas. Jacob pensait que ça allait être difficile. Mais quand Dieu prépare les cœurs, les choses se font très bien. Ésaü courut à sa rencontre, donc à la rencontre de Jacob. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa et il pleurait. C'est le même Ésaü qui, 20 ans auparavant, avait dit « Je me vengerai, je le tuerai, dès que mon père sera mort, je le tuerai ». Donc, il s'est passé quelque chose dans le cœur d'Ésaü pour qu'il change d'attitude. L'inquiétude de Jacob n'était pas fondée. Bon, il craignait de revoir son frère. Pourquoi ? Parce que Jacob était resté sur le passé. Et ça, c'est peut-être un défaut qu'on a, nous aussi, quand on reste sur une image du passé qui est restée gravée et on pense que les choses vont rester figées pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, Or, que le Seigneur est en train de travailler pour que les choses évoluent. Et ça, on ne le voit pas, on ne le sait pas. Donc, quand on vit aujourd'hui avec les blessures d'hier, et qu'on se rappelle qu'hier, ça a été difficile, donc on se dit aujourd'hui, ça va être difficile, en fait, on est en train de fausser notre regard et d'avoir une mauvaise orientation. Et certains vivent, en fait, dans le présent, mais ils vivent avec le passé présent dans leur vie de chaque jour. Quand ils prennent le petit déjeuner, ils pensent au mal qu'on leur a fait il y a 10 ans. Quand ils mangent le midi, ils, ils se rappellent le mal qu'on leur a fait. Et quand ils se couchent le soir, ils pensent encore. Et ils s'entretiennent dans le présent du passé. Si bien que le passé prend une telle force dans leur vie qu'ils sont malheureux. Alors Jacob a mal analysé. Il croyait qu'Ésaü venait pour le détruire, pour lui régler ses comptes. Non, il vient pour se réconcilier. C'est le verset 4. Il court à sa rencontre, il l'embrasse. Donc, réconciliation, c'est l'œuvre de Dieu. On peut dire que Jacob s'est inquiété pour rien. Il avait plutôt imaginé, et on est fort pour imaginer le pire, il avait imaginé que son frère lui ferait du mal. Tout ça, c'est notre imagination. L'inquiétude produit toujours des mauvais fruits. Hein, quand on est soucieux, on s'inquiète pour le lendemain, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais les soucis, dit Jésus, ça ne change pas la situation. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ce n'est pas possible. Donc, oui, on va se faire du souci, mais on va se faire du mal. En plus, les soucis se multiplient quand on se fait du souci, comme Jacob, il se dit « Comment ça va se passer avec mon frère? Il va être fâché contre moi, on ne va pas réussir à se réconcilier. » Eh bien, quand on se fait des soucis, ces soucis produisent d'autres soucis, et finalement, ça pullule. Un autre enseignement qu'on voit dans la Bible, c'est que quand vous vous faites du souci, vous anéantissez les bienfaits de la parole de Dieu dans votre cœur. Parce que les soucis, ça étouffe la parole de Dieu. Donc, la parole est semée, mais le souci vient étouffer cette bénédiction. Et puis, les soucis rendent notre cœur lourd, pesant. Ils nous abattent. Donc, on voit que l'enseignement de la parole, c'est de nous décharger sur lui, c'est-à-dire sur Jésus, de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Et quelquefois, on l'oublie et on se charge. Et on est comme Jacob, inquiet. Comment ça va se passer cette rencontre? Peut-être qu'il me veut du mal. Et on imagine. Et c'est parti pour les soucis. Et lorsqu'on a un esprit soucieux, on analyse assez mal les choses. On voit en fait à travers le prisme des inquiétudes, comme un miroir déformant, et on voit que les choses négatives. Mais nous devons veiller à notre état d'esprit. Tite 1, verset 15, « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et les incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. » Il y a une leçon à tirer ici, c'est que nous devons veiller sur notre âme. Quand notre âme est pure, quand notre âme est débarrassée du péché, on a demandé pardon, eh bien, on analyse les choses selon le regard de Dieu. Mais quand on est rempli d'amertume, c'est-à-dire ceux qui sont souillés, quand notre âme, elle est remplie de suspicion, de mauvaises pensées, eh bien, on va analyser les choses par cette vision-là et ça va avoir un impact mauvais. Et on peut dire notre intelligence, notre conscience vont être souillées, notre vision va être souillée, nos paroles vont être souillées et donc notre état d'esprit négatif va prendre le dessus. C'est pourquoi la Bible dit que notre cœur soit pur, de purifier nos cœurs pour avoir des pensées pures. Le cœur d'Ésaü, de son côté, était bien disposé à rencontrer Jacob. Il court vers Jacob, il l'embrasse. Pourquoi ? Parce que son cœur a été travaillé par Dieu alors que Jacob n'était même pas là. Et c'est pourquoi nous avons la prière. Ce soir, c'est une réunion de prière. Tout à l'heure, on va demander au Seigneur d'intervenir. Et quand nous prions, le Seigneur intervient. J'ai bien aimé le témoignage dimanche de Alex et Henriette qui montrent le bel impact de la prière alors que la sœur Henriette priait. À ce moment-là, Dieu est intervenu dans la vie de son mari qui était loin, qui ne savait même pas qu'elle priait. Et à ce moment-là, il a complètement changé de vie, il s'est repenti, il a changé. La prière de la foi, on ne le voit pas, c'est à distance, mais Dieu est fidèle et Dieu agit. Et en fait, Dieu a changé le cœur d'Ésaü alors qu'il n'était même pas en présence de Jacob. Il y avait déjà une action de Dieu dans la vie d'Ésaü. Dieu dispose les cœurs, regardez Proverbe 16, verset 7. « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Il y a donc une intervention surnaturelle de Dieu dans le cœur de cet ennemi pour le faire changer d'avis, être favorable à notre égard. Alors, on a un exemple avec la parabole du fils prodigue. Avant de rentrer chez son père, ce fils qui s'est égaré dans le monde, il s'imagine le pire. Il se dit, ah, j'ai péché, j'ai dépensé tout l'argent, je vais rentrer à la maison, mon père va certainement me traiter comme l'un de ses serviteurs. Il vient dans cet état d'esprit. Il ne se sent pas digne. Il se sent misérable. Il dit à son père, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Mais la réalité est tout autre. Lorsqu'il arrive, le père attend son fils et se jette, et c'est le père qui court se jeter dans les bras de son fils pour l'accueillir dans la maison. Donc l'état d'esprit du fils qui pensait qu'il allait être traité comme un serviteur par son père, c'était une mauvaise compréhension de qui est son père qui représente Dieu, qui pardonne. La réalité, c'est que le père qui représente Dieu était prêt à pardonner et il attendait le retour de son fils chaque jour. Maintenant, quand on regarde le fils aîné qui est resté dans la maison, qui a servi fidèlement son père, il était jaloux. Quand le fils est revenu, donc dans son cœur, il y avait de la jalousie, il y avait de la méchanceté. Il ne s'est pas réjoui de revoir son frère, il l'a jugé. C'est lui qui a mangé ton pain, il dit à son père, avec les prostituées. Donc, il juge son frère, il n'est pas dans un état de pardon. D'abord, il l'appelle même pas son frère dans la parabole, il dit « ton fils qui est revenu ». Pourtant, le fils de son père, c'est bien son frère. Mais il ne lui dit pas « c'est mon frère ». Il dit « c'est ton fils ». Il a mis de la distance. Ici, on voit la sincérité d'Ésaü, parce qu'Ésaü fait la démarche de pardon. Ce n'est pas un pardon de façade, c'est un pardon du cœur. Et c'est ça le pardon que Dieu nous demande, de pardonner de tout notre cœur. Si le cœur n'est pas impliqué, le pardon ne tiendra pas. On a une parabole de Jésus, c'est la parabole du serviteur, qui devait 10 000 talents. Alors j'ai regardé, 10 000 talents, pour nous ça ne veut rien dire, 10 000 talents. Si on convertit en euros, ça fait 240 millions d'euros. C'est déjà une somme colossale. Très peu de gens arrivent à accumuler 240 millions d'euros dans leur vie. On va dire que c'est une somme astronomique. Et à la fin de la parabole, dans Matthieu 18, 35, puisque celui qui devait 10 000 talents a refusé de pardonner à son collègue qui devait une somme bien moindre, quelques milliers d'euros, eh bien, il dit, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout votre cœur. C'était nécessaire d'y mettre le cœur et ce serviteur ne l'a pas fait. Et maintenant, il se retrouve en prison, il se retrouve tourmenté par les bourreaux parce qu'il a refusé de pardonner de tout son cœur. On arrive au troisième point. C'est l'image du grand pardon qu'il y a entre Ésaü et Jacob. Mais il y a un autre grand pardon, c'est celui du pardon de Jésus-Christ qui a pardonné nos péchés, puisque Jésus, lui, n'avait pas besoin d'être pardonné pour ses péchés, il n'avait pas de péché, mais il est mort à la croix pour effacer nos péchés. Et dans le calendrier juif, il y a un jour bien particulier, une fois par an, qu'on appelle le Yom Kippour, et en français on dit le jour du grand pardon. Et ce jour-là, le souverain sacrificateur va rentrer dans le tabernacle avec le sang des animaux pour obtenir le pardon de ses péchés et des péchés du peuple. Le grand pardon, c'est le pardon, c'est l'amnistie générale. Eh bien, ce grand pardon qui est répété dans la loi juive tous les ans, en fait, il préfigure le grand pardon, mais qui va être fait une seule fois, c'est quand Jésus va mourir à la croix, effacer nos péchés. C'est aussi le grand pardon, mais il n'y a pas besoin d'y revenir. Jésus l'a fait une fois pour toutes, et c'est définitif. Lorsque vous péchez, vous savez que vous avez mal agi, et donc vous êtes repris dans votre conscience, et vous avez besoin de pardon. Il y a une culpabilité qui est là, c'est David qui dit « tant que je me suis tué, il avait péché avec Bathsheba, tant que je me suis tué, il ne voulait pas confesser son péché, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, on voit qu'il était malheureux. » Certains vont chercher du réconfort, alors ils ne veulent pas se repentir, alors ils vont chercher dans la psychothérapie, dans les méditations, dans le développement personnel, ils vont chercher des solutions pour combler leur âme. Mais il n'y a que Jésus qui peut pardonner nos péchés, nous le savons. Et David, finalement, il s'est tourné vers Dieu Et il a confessé son péché et il a reçu le pardon du cœur. Lorsque Jésus était sur cette terre, les gens venaient à lui pour être guéris. Et il y a quatre hommes qui ont porté un paralytique, qui ont amené ce paralytique devant le Seigneur. Et la Bible dit que Jésus a vu leur foi. Et il a dit à ce paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et Marc 2,10 dit ceci, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Eh bien, ça pour les Juifs, c'était une parole de blasphème parce qu'il n'y a aucun homme, aucun prophète, par exemple, avant Jésus, n'avait dit que moi, j'ai le pouvoir de pardonner tes péchés. C'était impossible, ça revient à Dieu. Et Jésus s'arroge le droit de dire, ben, le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, a le pouvoir de pardonner les péchés et il donnait le pardon de Dieu. Le pardon des péchés se trouve donc en Christ. Ça a été un scandale pour les Juifs. Nous savons que c'est la réalité, que le pardon ne se trouve que dans le sacrifice de Jésus. Quatrième point, c'est maintenant ben, ce qu'on constate, parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes chrétiens, nous appartenons à Jésus, mais on a du mal à pardonner même dans l'Église. Et un des plus grands fléaux dans l'Église, c'est quand il y a des conflits et un manque de pardon. Alors ça cristallise les oppositions, ça crée des blessures profondes, et puis on est dans l'Église, alors on s'attend tous à ce que ça se passe bien et que tout le monde soit content. On se place en juge. On se dit, bah, s'il était chrétien, il ne ferait pas ceci. Ou s'il était chrétien, il ferait comme ça. Alors on voit souvent la paille qui est dans l'œil de notre frère ou de notre sœur. Mais on ne voit pas la poutre qui est dans notre œil. Ça, c'est Jésus qui nous l'enseigne. On doit développer un regard sur soi-même. Donc Jésus enseigne que le pardon est indispensable. Il dit qu'il nous faut avoir une attitude de pardon. Le pardon de Dieu est d'ailleurs conditionné au pardon que nous apportons aux autres. Et j'ai remarqué aussi Paul dans 2 Corinthiens 2,6 qu'il nous dit que pardonner, c'est un devoir. Alors il dit, 2 Corinthiens 6,7, « Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. » C'est un devoir. Et Paul dit que le pardon, c'est une décision. C'est quelque chose qu'on doit pratiquer. Alors peut-être il n'avait pas envie de le pardonner parce qu'il avait fait des choses graves, mais il dit, vous devez lui pardonner. Ça, c'est votre part, vous chrétiens, vous ne laissez pas le manque de pardon dominer dans votre cœur. Et il précise au verset 11 pourquoi. On va lire le verset 2 Corinthiens 2,11. Il dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. La conclusion, c'est que si on ne veut pas pardonner, on ne se décide pas de pardonner, eh bien, c'est Satan qui prend l'avantage sur nous, qui va semer le trouble, qui va nous rendre malheureux, qui va nous égarer. Et même, on va être animé de mauvaises pensées, de divisions, de jugements, etc. Donc, pour ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, il n'y a pas 36 solutions, vous devez lui pardonner. Si nous ne le faisons pas, c'est Satan qui prend l'avantage. Donc voilà, c'est pour ça que pour Paul, c'est central, c'est quelque chose qu'on doit faire impérativement. Enfin, Colossiens 3,13 nous dit que le pardon, il est collectif. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alors là, ici, Paul, il dit que le pardon, c'est un impératif. Pardonnez-vous, ce n'est pas une suggestion, dans le sens, il serait bien que vous vous pardonniez, mais il dit plutôt, c'est un ordre que je donne de la part du Seigneur, pardonnez-vous réciproquement, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Et puis, il insiste sur le pardon réciproque, il n'y en a pas qu'un qui doit faire le premier pas, il faut que l'autre aussi fasse le pas, et que ce pardon, il soit des deux côtés. Et ça permet une vraie réconciliation. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, on a vu Jacob. Jacob, je reviens à lui, puisque il a bénéficié du pardon. Il venait pour rencontrer son frère Ésaü après 20 ans de séparation. 20 ans auparavant, Jacob avait un esprit égoïste, centré sur lui-même. Il avait volé la bénédiction de son frère. Il cherchait toujours la bénédiction matérielle. Il était trompeur. Maintenant, avec les années, il a été transformé. Il obéit à Dieu. Il cherche la face de Dieu. Il cherche le pardon de son frère. Il a même bâti un autel. C'est au verset 20, un petit peu plus loin. Là, il éleva un autel qu'il appela El Elohe Israël, qui signifie Dieu, le Dieu d'Israël. C'est-à-dire que Dieu, ce n'est pas simplement le Dieu de ses pères, parce qu'il s'appelle aussi Israël, Jacob, mais il dit Dieu, c'est aussi mon Dieu. Il s'est approprié le Dieu de ses pères. Ce n'est pas simplement le Dieu de nos pères, c'est notre Dieu. Et le pardon vous fera toujours grandir spirituellement et vous rapprochera toujours de Dieu. On va prier quelques instants. Merci pour ta parole, pour cet exemple, cette démarche de Jacob qui revient vers son frère pour demander pardon. Merci parce que tu as su préparer aussi le cœur d'Ésaü pour que lui-même reçoive ce pardon et qu'il y ait réconciliation entre ses deux frères. Et nous voyons là une belle illustration de ce que tu veux pour ton peuple aujourd'hui, avec un pardon réciproque, avec un amour fraternel, avec ce zèle pour les choses de ta maison qui nous font dépasser les désaccords, qui nous font dépasser les conflits, qui nous permettent des réconciliations, qui nous permettent, Seigneur, de repartir d'un même pas, d'avoir une vision commune, de marcher ensemble, Seigneur, dans les plans et les projets que tu as tracés pour nos vies. Merci encore pour ta parole. Nous te prions de conduire ces temps de prière pour que, dans ta grâce, nous puissions encore nous approcher de toi pour la seule gloire de ton nom. Amen.